C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et notre chef étoilé de la semaine, Vincent Favre-Félix, dont le restaurant à Annecy porte le nom. Cher Vincent, ce soir de la truite qu'il faut désarrêter.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'on prend une pince à épiler.
On fait sortir nos arêtes en passant un petit coup de pince à épiler dessus. Et après, on attrape les arêtes avec la pince.
Ah oui, il faut quand même une force herculéenne, non ?
Après, on trempe dans l'eau. On tient, hop.
Voilà. Ah, il faut tenir le bout, d'accord.
Dans l'eau.
Ah, je la tiens pas bien. Ah, à chaque fois, il faut faire ça, d'accord.
Juste, en fait,
ça prend
dans
un
l'eau.
Temps fou, quand même, Vincent.
Oh, c'est assez long, mais c'est bien. Après, c'est, pour les clients, c'est mieux.
Pierre suggère de les laisser. Bah non.
Ah bah, je lui laisserai pour son assiette.
Ah bah voilà. Eh bien, voilà. Il y aura un filet de truite avec arêtes pour Pierre, voilà. Et pour nous, des arêtés. Merci,
pour vous,
cher Vincent. Accompagné avec un peu d'ortie et
d'oseille. Avec de l'ortie et de l'oseille, tout à fait.
Voilà. Et qui pique encore l'ortie ?
Il pique encore.
J'ai pris une décharge de malade. Ah oui, c'est il pique encore.
Décharge
d'ortie. Il piquera plus tout à l'heure dans l'assiette. Merci Vincent, bon courage pour le désarrêtage.
Allez. Merci.
Définir en un mot le style Étienne Dao. Question posée en 1989 aux fans venus l'applaudir en concert. Réponse en vrac, hein. Que des compliments. Beau, romantique, tendre, sensuel, sympa et surtout très 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 cool.
C'est cool.
Ah ouais, surtout la coupe qu'il a, ouais, le style, c'est génial.
J'aime bien, c'est assez romantique quand même, et puis c'est assez sensuel.
J'ai retrouvé un peu de tendresse, ça m'a fait un peu rêver ces chansons. Et c'est pour ça que j'écoute Étienne Dao, parce que j'aime bien. Je trouve ça romantique, c'est tendre.
J'aime bien parce qu'il est timide, mais quand il est sur scène, il est vraiment bien, quoi. Il sait sortir de sa timidité pour nous, quoi.
Étienne Dao, timide en tout cas jusqu'à son entrée en scène, peut-être le plus secret des chanteurs français, et qui pourtant ouvre aujourd'hui les portes de son intimité. Archives privées, photos de famille, bulletins scolaires, cartes d'étudiants, courriers personnels, signés de sa mère ou de Françoise Hardy, le tout dans un sublime ouvrage pour retracer en images et en textes, sous la plume de Sylvie Coma, une proche depuis le lycée, le parcours d'un éternel jeune homme qui est ce soir notre invité.
Bonsoir,
cher Étienne.
Bonsoir, Étienne.
Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Ravie de vous accueillir ce soir, je vous en prie. Et de feuilleter avec vous les 400 pages de ce secret book.
Oui, c'est conséquent. Hein.
Oui, dis donc, il y a toute votre vie là-dedans, en fait.
Quasiment, oui. Ouais.
Et qui aurait pu imaginer que vous acceptiez de dévoiler autant de vous ? Ce livre, c'est autant une surprise qu'une réussite. Même vous, vous en êtes étonné presque.
Oui, surtout quand je l'ai reçu, parce que c'est vrai que c'est fou de retraverser moi-même ma propre vie avec un si beau livre.
Et de délivrer et de dévoiler.
La première chose, j'ai trouvé qu'il sentait très bon, en fait. Vous savez, les livres,
senti.
Ça sent bon, là, l'odeur du papier.
Ah oui, dis donc,
hein, il sent bon.
On ne sent pas assez les livres. Oui, il sent bon, et puis il y a des documents très personnels qui n'étaient pas destinés à revoir
non.
La lumière du jour.
Non, absolument pas. Mais en fait, j'ai reçu une lettre d'une éditrice qui s'appelle Isabelle D'Artois, pour La Martinière. Et sa lettre était très... son envie a contaminé la mienne, en fait. Donc j'ai laissé traîner un peu les choses, et puis un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, mais il y avait déjà plein de bouquins qui existaient, qui étaient très bien. Il fallait trouver un angle un peu différent, et donc de fil en aiguille, on s'est dit, voilà, il y a des archives, ce serait marrant de pouvoir les partager.
J'ai une belle vie. Il n'y a rien dont je pourrais avoir honte, dites-vous. Tout est raconté avec authenticité, y compris votre arrestation. Pour avoir emprunté une 4L en bas de chez vous, ce qui vous a valu quand même d'être pris en photo de face et de profil au commissariat, c'est votre période jeune racaille. Ça, c'est vous qui l'avez légendé.
Oui, c'est drôle. Hein. En fait, je comptais la rendre, la voiture. Hein.
C'était un emprunt, vraiment.
C'était juste un emprunt. Je voulais descendre au centre-ville pour aller boire des coups. Et puis, en fait, quand je suis remonté dans la voiture, je me suis fait serrer. Voilà.
Et vous avez pu récupérer la photo facilement ?
Pas facilement, non. C'est quelqu'un
qui
travaille...
Ah oui, parce que c'est pas facile hein,
c'est
de récupérer quand on est arrêté.
C'est quelqu'un qui travaille à la police qui m'a écrit, qui m'a dit, voilà, j'ai ça pour toi. Et qui me l'a envoyé. J'ai trouvé ça tellement bien.
Ah bah oui.
On est au milieu
parce qu'il y a plein de fakes, hein, de choses comme ça. Moi, c'est du vrai. Hein.
Bah oui, vous en êtes très fière. Bah, tout le monde n'a pas une photo fière, comme ça. De...
J'irai pas jusque-là, mais je suis content de l'avoir.
Ça, c'est dans le milieu des années 70, vos années fac. On est à Rennes. Vous c'est habitez ça, ouais. un deux pièces sans chauffage, mais qui est the place to be dans la ville.
Oui,
pourquoi
c'est très très bien situé parce que c'était au milieu de, d'un espèce de triangle. Il y avait la boîte où on allait, le bar où on allait.
Et puis surtout, vous avez une baignoire sabot.
Tout le monde finissait chez moi, oui.
Parce que personne n'avait de baignoire sauf vous.
Oui, les gens venaient se baigner chez moi, oui.
Il n'y avait pas de chauffage, mais vous aviez un four, je crois, ou une gazinière.
Oui,
et vous passiez
vrai,
votre
oui.
temps devant la gazinière ou dans le bain.
C'est vrai.
Mais c'est autant d'anecdotes merveilleuses qui sont racontées dans...
Oui,
dans...
parce que c'est Sylvie Coma qui les a racontées. Sylvie est une amie de collège, hein. Je l'ai rencontrée. Elle était en Cagne, c'est une grosse tête. Moi, je me traînais en terminale. Et donc, il y avait cette fille sublime qui traversait les couloirs, comme ça, très sûre d'elle, etc. Et on est devenus amis. Et je l'ai embarquée dans mille aventures... absolument incroyable. Elle est venue à Paris avec moi faire écouter mes premières maquettes. On s'est fait jeter.
Tous les deux, oui.
On s'est fait jeter. Le directeur artistique m'avait dit « Vous ne signerez jamais.
Voilà. » Vous l'avez retrouvé, lui ? Il y a une photo de lui, quelque part ?
Non, mais surtout, on est sortis, on riait tellement. On était allongés de rire sur le trottoir. Et on est rentrés à Rennes. Voilà, après, on a repris le train.
Oui, pour mieux repartir dans l'autre sens après. Il y a une citation qui ouvre cet ouvrage. « L'œuvre d'un homme doit être assez forte pour qu'on puisse lever le rideau sur les coulisses. » C'est signé Jean Cocteau. Et je pense que vous avez démontré que l'œuvre était assez forte pour qu'on puisse lever le rideau sur ses coulisses. On y revient longuement, cher Étienne ?
On y revient comme
là,
vous voulez.
Tout de suite, ce sont les infos express de cet homme. Émilie.
Vous connaissez sûrement obligatoirement ce morceau.
Ah, c'est coupé le son.
Ah, c'est Catherine.
Ah, Philippe Catherine.
Et on recoupe le son. Il y a pire que ce tube de Philippe Catherine. Il y a ceux qui, en plein match de Coupe du Monde du football, coupent la télévision. Alors cette technique sournoise pour boycotter le Qatar est rendue possible grâce à une télécommande capable d'éteindre n'importe quelle télé jusqu'à 45 mètres de distance, technique complètement assumée par ces militants qui la fabriquent et la vendent même sur Internet. 20 euros, car si elle peut être très agaçante, c'est une technique avant tout pacifiste. En revanche, elle n'a rien de nouveau. Déjà en 2014, une marque de soda qu'il faut secouer si on veut que la pulpe ne reste pas en bas avait inventé une canette anti-foot.
Mais ça rend fou.
Ah, ça rend fou. Ça,
tu peux l'éteindre, tu peux la rallumer.
Oui, tu peux la rallumer, voilà. Exactement.
Voilà. Mais ils le font ou pas ?
Hein ? Ils font la tournée des bars et c'est ce qu'ils comptent faire pendant tout le mondial pour éteindre les télés qu'on regarde. C'est une manière de manifester.
Vous éteignez ou vous allumez votre télévision là, pendant la Coupe du Monde au Qatar ?
J'ai pas la télé.
Ah ben voilà, donc comme ça c'est réglé. C'est fait. Vous avez jamais vu C'est à vous ?
Ah si, si.
Ah voilà.
Si, je la regarde sur mon ordinateur.
Ah ben bien sûr, il y a l'ordinateur, sois-je bête. Patrick.
L'histoire d'un influenceur qui a gagné un peu d'argent en montrant ses nuits, en se filmant la nuit sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Jack K. Boom. Il a 28 ans, il vit en Australie, c'est un Australien. Et il a conçu un réseau, un programme informatique sur TikTok qui permet de le voir dormir en direct, mais aussi de le réveiller ou de l'empêcher de dormir, si vous voulez, en même temps. C'est-à-dire que les utilisateurs de TikTok sont invités à jouer à un jeu, trouver des mots-clés, etc. Bon, et quand vous trouvez le mot-clé, ça déclenche un objet connecté dans la pièce, dans la chambre où il dort. Quelques exemples. Every time someone joins my live stream, it plays Chrissy Wake Up.
Here's Johnny.
Voilà, alors évidemment, ça fait des nuits très agitées, mais...
ça lui rapporte de l'argent.
Ça lui a rapporté de l'argent, en tout cas, il y a quelques mois, je ne sais pas, j'ai pas eu le...
Vous n'avez pas enquêté.
J'ai pas enquêté pour vérifier si c'était encore le cas, si ça marchait toujours, mais effectivement, le premier mois, il s'est vanté d'avoir gagné 35 000 dollars, comme ça.
Ah oui, quand même.
Simplement.
Il s'est monté à plusieurs centaines de milliers d'euros.
Ah bon?
Ouais.
Depuis. Ah ouais, ouais. Il y a des nuits qui rapportent plus que d'autres. Hein,
Ça aide.
Mohamed.
Étienne, vous savez que désormais, votre chanson, Weekend à Rome, accompagne toutes les stories Instagram des touristes français dans la ville à Rome. Vous le savez? Il y a des petits morceaux. En tout cas, vous pouvez le découvrir sur votre téléphone. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on l'entend, on a envie d'aller à Rome. Ça, c'est plutôt basique. N'ayant pas de chanson qui lui soit dédiée, la ville de Précice, dans les Pouilles, a trouvé une autre idée pour faire venir les gens jusqu'à elle. Elle offre la coquette somme de 30 000 dollars à qui viendrait s'installer sur ses terres. On va découvrir Précice sur les photos. Être payé pour vivre en Italie, on peut se demander s'il n'y a pas une escroquerie. Mais en fait, pas du tout. Regardez comme c'est beau. Cette initiative a en fait pour but de redynamiser cette région.
Bah oui,
il faut y aller tout de suite.
Qu'est-ce qu'on attend ?
Voilà, 30 000 dollars. Cette région est en fait en déclin démographique et dont les logements sont délabrés. En revanche, comme dans les pubs, avec l'astérisque écrit en tout petit, pour bénéficier de ces 30 000 dollars, il faut acheter une maison abandonnée et s'engager à la rénover. On y va, Étienne ?
C'est tout à fait tentant, bien sûr.
Ah ouais, oui.
À 30 000 dollars.
En plus, il n'y a pas grand monde.
Non, mais personne.
Oui, j'ai l'impression qu'on serait tranquille.
Tous les jeunes sont partis dans les grandes villes.
Oui, Patrick ?
Non, si vous avez oublié un truc pour faire les courses, pour manger le soir, là, c'est embêtant.
Très terre à terre, Patrick.
Ah, bah, écoutez, quitte à vivre quelque part, autant avoir 2-3 commerces.
De quoi manger, surtout. Voilà. Ça, c'est la grande inquiétude de Patrick.
Vous ne mangez pas, vous ?
Très peu, un petit moineau. Je suis une princesse.
Voilà. Oui, c'est ça. Oui.
C'est l'heure de l'œil de Pierre.
Pour tout vous dire, Étienne, je suis victime d'une rhinopharyngite, donc c'était quand même difficile en se réveillant avec des yeux de lapin russe de se dire que ce soir je ferai un œil, mais à partir du moment où vous étiez là, pas question de me faire porter pâle, au contraire. Je suis venu pour vous faire un cadeau qui va faire plaisir à toutes les femmes et tous les hommes qui aiment la poésie, la chanson, la profondeur et la grâce.
Dis, quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que plus.
Ça vous fait plaisir déjà ?
J'adore Barbara.
Ben oui.
Je l'ai vue très souvent en concert.
Ben voilà.
La première fois, j'avais 14 ans, j'ai été complètement fasciné.
Il y a 25 ans que Barbara est partie et c'est l'occasion, bienvenue, d'un coffret magnifique, toute sa discographie, studio et live, un très beau livret, une jolie peinture, des versions alternatives inédites, bref, une vie d'artiste.
J'ai écrit petitement avec ma petite vie de femme. De chaque jour, avec mes drames, avec mes morts, avec mes amours, déchirées, heureuses. Je ne suis pas quelqu'un de triste, il s'est trouvé que les gens se sont retrouvés dans les choses tristes.
On aimait son mystère, mais elle savait aussi si bien parler de ses peines, voire de ses affres, mais également de ses joies.
Je ne connais pas de joie plus grande que celle de donner, de se sacrifier, de se dépouiller pour ce que l'on aime. Ou pour ceux que l'on ne connaît pas, quelque part. Je pense que tout est amour. Enfin, ma religion, c'est l'amour. Si je n'avais pas chanté, sans doute j'aurais été bonne sœur ou putain. Je crois qu'il faut se brûler. Il faut vivre jusqu'à la déchirure, passionnément.
Dans ce coffret, Étienne, il y a également une version inédite de cette fameuse chanson « Vienne ». Qu'elle a décidé après une rupture de ne plus jamais chanter en public, même quand la salle conquise la lui réclamait.
Si je t'écris ce soir de Vienne, j'aimerais bien que tu comprennes que j'ai choisi l'absence comme dernière chance. Notre ciel devenait si lourd. Si je t'écris ce soir de Vienne, c'est beau, tu sais, l'automne, ma Vienne. C'est que sans réfléchir, j'ai préféré partir et je suis à Vienne sans toi.
On a retrouvé une autre archive une interview de 1969 encore, la veille à l'Olympia, après un dernier appel, elle est revenue sur scène et à la grande surprise de ses musiciens et de son manager, le grand Charley Marouani, que vous avez bien connu, elle a expliqué qu'elle ne reviendrait plus jamais sur scène, une annonce sans prévenir, si j'ose dire. Elle commente dès le lendemain.
J'ai toujours pensé que ce métier, je ne pourrais le faire que s'il était totalement ma vérité et que si un jour, tout à coup, je me sentais trichée, avec ce public qui m'a tant donné, avec ce qui est ma vie, je ne pourrais pas continuer comme ça. C'est-à-dire que tout à coup, j'ai envie de bouger. J'ai fait tout ce que j'avais envie de faire, comme j'avais envie de le faire, avec toutes les maladresses que ça comportait, avec toutes les erreurs. Et puis, maintenant, j'ai envie de partir. Je n'avais pas décidé de partir, ça m'est arrivé comme ça, ces jours-ci. J'ai senti ça. Alors j'ai eu envie de le dire, et je l'ai dit hier soir en scène, parce que je ne voulais pas qu'on l'apprenne, si vous voulez, par d'autres que par moi.
Elle vous l'avait dit ? Elle vous avait dit qu'elle voulait s'arrêter.
Ah non, pas du tout. Non, mais elle était extrêmement drôle. Hein. Il faut quand même préciser que Barbara était quand même drôlissime.
Et pour se quitter, ce refrain à jamais pour celui qu'elle aimait tant, c'est-à-dire nous toutes, nous tous. Qu'importe ce qu'on peut t'en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir, je voudrais me réciter. Cher Étienne, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, ce coffret, je vous l'offre.
Ah, merci beaucoup,
magnifique.
Il est magnifique. Ouais.
C'est un vraiment. Sublime, sublime.
Voilà,
coffret.
Sur le dessus, voilà.
Comme ça. Ah, c'est très très beau.
Ouais.
Ouais, ouais.
Et il y a 15 CD.
Jaloux. Je vais faire des jaloux, ouais.
Bon, ben moi, je garde mon secret book. Signé Sylvie Coma avec vos légendes formidables. On en parle longuement, préfacé par Élie Médéros. Et c'est chez La Martinière, aux éditions de La Martinière. Vous restez avec nous, cher Étienne.
Bien sûr.
Merci, Émilie. À demain. C'est l'heure du bus qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
Visage caché derrière un énorme chèque. Un couple du Pas-de-Calais qui a remporté le jackpot le 4 novembre est venu regarder chercher son chèque. 160 788 895 euros précisément.
Votre cagnotte, Stéphane, s'élève à 406 747 euros. C'est une histoire de fou ce qui se passe sur le plateau.
Il est l'heure de jouer pour vous et rien que pour vous à la maison. Jouer pour quoi ? Pour gagner 5000 euros. 5000 euros à gagner. Ce soir encore, ils sont mis en jeu pour vous et rien que pour vous. Quand je dis rien que pour vous, c'est que les impôts, les contrôleurs des impôts, comme notre copain bleu, ils peuvent rien vous prendre.
En public, comme ici à Périgueux. Dans l'intimité, à Rouen. À Limoges. Ou depuis le ministère des Finances à Paris. Dans toute la France à midi, la minute de silence des agents des finances publiques en hommage à leurs collègues assassinés.
Faut-il interdire les écrans aux tout-petits ? C'est une question que vous vous êtes, j'en suis sûr, déjà posée, surtout si vous êtes parents ou grands-parents. Eh bien, une nouvelle étude relance le débat, car on y apprend que trop d'enfants dès 2 ans sont accros aux écrans.
Sans prendre en compte l'usage, la consommation de la télévision, à 2 ans, 27% des enfants sont déjà exposés aux écrans. À 5 ans et demi, ils sont 54%.
Quand on est connecté très tôt, eh bien on continue à augmenter son temps de connexion et donc c'est l'escalade puisque après il va être très difficile pour les enfants de se détacher de ces écrans parce qu'il y a une forme d'habituation et ils vont rentrer ces usages numériques dans leurs usages du quotidien.
De plus en plus, des journalistes de presse écrite. Presse écrite qui va bientôt rendre l'âme en quelques jours, quelques heures. Nous appellent, ils appellent tout le monde pour faire des articles sur moi.
On peut appeler ça liberté d'expression, on peut appeler ça anonymisation, mais quitte à être sans filtre, allez, on peut tous dire.
Des émissions que personne ne regarde, j'ai vu sur France 5, une émission que je connaissais même pas. J'étais avec des gens que je connaissais même pas. Je connaissais Crachy d'Arabe. On fait des records d'audience grâce à nous. Donc, si on peut aider
on aide.
C'est beau.
À ce que
c'est beau.
La presse soit encore de ce monde, les émissions que personne ne regarde peuvent encore vivre, je suis heureux.
Télépopulisme, les dangers du système Hanouna.
Gaël, Ludivine et toute la famille sont extrêmement inquiets, on les comprend bien entendu, et qui se disent, on sait que Lilou, vous m'avez dit, elle adorait « Touche pas à mon poste ».
Oui.
Donc vous espérez qu'elle nous regarde ce soir.
Dès que la violence s'installe, c'est inadmissible. Il n'y a même pas à savoir si elle est légitime ou pas, elle est inadmissible. Parce qu'en démocratie, le processus de civilisation, c'est que la violence n'a pas lieu d'être.
Le problème, Cyril, c'est Alain Chabat. Je suis désolé.
Quoi ? Non, il est pas nul. Arrête.
Non,
on dira ce qu'on voudra, il est pas nul.
Après, dans Burger King, il est pas nul.
Mais là, c'est vrai que là, je pense que pour moi, à un moment, et moi, j'espère que vous me le direz, quand c'est fini, c'est fini.
Bon, exactement.
Faut passer à autre chose. Quand c'est fini, c'est fini.
Bah exactement.
Comme disait Charles Aznavour, il faut savoir quitter la table quand le meilleur est desservi.
J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti.
Al-Qaïda aurait appelé à boycotter le mondial au Qatar. Bah du coup, je ne voudrais pas faire le jeu du terrorisme.
Un exploit majuscule salué par un banc d'honneur qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Grâce à ses remplaçants, le Japon bat l'Allemagne par ippon.
La réalisation internationale ne vous l'a pas montré tout à l'heure. Au moment de la photo, les joueurs ont mis leurs mains devant leur bouche pour protester contre l'interdiction par la FIFA du brassard arc-en-ciel, ce brassard inclusif.
La ministre de l'Intérieur allemande, Nancy Fraser, installée à côté d'Infantino, enfile le brassard inclusif One Love avec l'arc-en-ciel. Bon, Infantino, on ne sait pas bien, il a l'air très réjoui, on ne sait pas bien s'il voit bien le brassard à ce moment-là.
Ça fait 4 jours que la compétition a commencé et que l'étau ne cesse de se resserrer. Pas question donc pour les capitaines des sélections européennes qui souhaitaient de mettre leur brassard One Love. Il y a des supporters gallois qui voulaient entrer avec un t-shirt, avec un arc-en-ciel dessus. Ils n'ont pas pu rentrer dans le stade. Pas question pour la Belgique d'utiliser son deuxième jeu de maillot avec juste marqué Love dans le col. L'alcool finalement interdit alors que le Qatar s'était engagé à ce qu'il soit autorisé à l'approche des stades. Vous êtes à l'aise avec tout ça ou pas ?
Le Qatar. Avec leur climatisation à ciel ouvert, les Qataris ont créé une atmosphère parfaite pour permettre à la faune polaire de prospérer. Ici, le réchauffement climatique n'est déjà plus qu'un mauvais souvenir. Le Qatar, première terre d'accueil des ours polaires du monde. Merci.
Depuis une dizaine de jours, Mayotte est au bord de la guerre civile. Mamoudzou, la plus grande ville de l'île, département français de l'océan Indien, est secouée par de violents conflits interquartiers.
Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un établissement scolaire qui est encerclé par des jeunes barbares en culottes courtes et que policiers et gendarmes font appel aux lacrymogènes et aux blindés.
Plusieurs grandes villes d'Ukraine à nouveau bombardées par l'armée russe. Des millions d'habitants sont plongés dans le froid et l'obscurité. Des centrales électriques, mais aussi des immeubles d'habitation ont été visés.
Le Parlement européen a voté un texte qualifiant la Russie d'État promoteur du terrorisme. Un symbole diplomatique salué par Volodymyr Zelensky.
Voilà pour le vu du jour. Étienne Dao, qui es-tu ? D'où viens-tu ?
Je suis un jeune homme de 27 ans, Capricorne Lion, je viens de Rennes, et je suis auteur, compositeur et interprète.
Et ce jeune homme, malgré ses apparences de gentil garçon, est-ce qu'il ne serait pas par hasard un cow-boy ?
Si, bien sûr, les nuits de pleine lune.
Mon Dieu !
Mais tout va bien, Étienne. Un plaisir de revoir ces images, j'imagine.
Ah oui, grand plaisir.
Un jeune homme de 27 ans qui vient de Rennes. C'est une presque vérité ou un mini-mensonge, parce qu'en fait, Rennes, c'était après Reims, après Paris, après Oran, en Algérie, là où vous êtes né, le 14 janvier 1956, dans un pays en guerre, et c'est une enfance sous les bombes que vous racontez là.
Oui, mais les enfants s'habituent à jouer sous les bombes.
À jouer sous les bombes, à éviter les cadavres dans la rue, à se baisser pour passer sous les
C'est quelque chose à quoi on s'habitue, et on vit avec, et c'est après que ça revient, beaucoup plus tard.
C'est-à-dire beaucoup plus tard ?
Beaucoup plus tard, on réalise ce qu'on a vécu. Enfin, les tensions de l'époque, quoi.
La plupart des Français avaient quitté l'Algérie à l'époque et vous êtes coincé là-bas.
Oui, parce que mon père était rentré avant nous
et que on n'a pas pu rentrer pour des raisons d'autorisation paternelle.
Parce que la loi disait qu'aucun mineur ne pouvait quitter la
Très très cool, mon père.
Ouais, sans l'autorisation du chef de famille qui était parti, qui vous avait
laissé
là-bas avec votre mère et avec vos sœurs. En 1962, vous fuyez au rang pour vous installer au Cap Falcon, je le prononce
bien. Oui, c'est
bien.
Ça. Ouais.
Un petit village balnéaire sur la côte oranaise. Votre grand-mère organise tout. Elle loue une maison près de la plage. Elle ouvre une petite épicerie, un débit de soda et de crème glacée. Vous avez 3 ans et on vous voit en photo. Oh. Vous passez votre temps, Étienne, où ça, à côté du
Ah oui, 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 oui. Ma première histoire d'amour.
Vous ne saviez pas encore lire, mais vous chantiez les Platters, quoi.
Oui, en phonétique, oui. D'ailleurs, on me surnommait Only You.
Only You ?
Oui.
C'était le petit Only You.
Exactement, oui.
Et dès qu'un client glisse une pièce dans le jukebox, vous vous faufilez
oui,
pour écouter le titre.
J'avais repéré les numéros, donc je mettais les disques.
Ça n'est qu'à 8 ans que vous êtes emmené à Paris par votre tante,
ouais.
Avec des papiers falsifiés.
Je ne sais pas si ce sont des papiers vraiment falsifiés, mais en tout cas, j'ai eu moi la sensation de rentrer...
Par effraction, presque.
Clandestinement, oui, c'est vrai.
Vous vous souvenez bien de votre arrivée à Paris ?
Oui, bien sûr.
Quel sentiment vous aviez à ce moment-là ?
On est allé à Reims très vite. J'étais dans une école extrêmement stricte de jésuites, donc il fallait faire un peu profil bas. Je découvrais... un autre monde et j'avais envie d'être et accepté et de m'intégrer. Donc il a fallu jouer des points et puis surtout rattraper le temps perdu parce que j'avais été à l'école tout à fait en diagonale. Donc coaché vraiment par cette tante à qui je dois beaucoup parce qu'elle m'a vraiment inculqué le goût de la culture comme moyen de s'en sortir véritablement.
Et comme moyen de grandir et de s'intégrer, oui, d'être accepté vraiment. Et d'imposer
donc, je
sais
pas,
sa
à 9 ans, j'ai lu mon premier livre de poche, donc j'étais hyper fier.
C'était quoi ?
C'était le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Après, j'ai continué, j'ai lâché la bibliothèque verte, quoi.
Il y a beaucoup de femmes dans l'album de votre vie, Étienne, celle de votre famille, vous venez d'en parler. Plein de jolies chanteuses aussi dans ce livre.
Oui,
Élie
oui.
Médéros, merveilleuse, qui signe une page de préface. Dany, Jeanne Moreau, Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg, Lou Doyon, Brigitte Fontaine et Françoise Hardy, qui tient une place toute particulière dans votre... parcours, c'est l'idole de votre enfance. On va vous voir en 63 sur la côte algérienne, à Cap Falcon, avec votre sœur Fanfan qui tient ce 45 tours dans les mains et vous êtes à ses côtés.
Vous voyez,
et
j'ai de la suite dans les idées. Quoi.
Oui, et voilà. Et on voit d'ailleurs avec cette photo à la fois ce qui vous relie à Françoise Hardy et ce qui vous relie à Alain Bachung, puisque vous êtes à l'arrière d'une dauphine. Osez Joséphine.
Ah oui,
bon, voilà, personne n'a compris ma vanne, mais voilà, c'est pas grave.
Pas mal.
C'est la voiture, c'est la Dauphine. Et cette idole d'enfance qui est Françoise Hardy, vous la retrouverez quelques années, vous allez la fréquenter quelques années plus tard. Et d'abord pour un duo, Si je m'en vais avant toi.
Ah oui.
Et si je m'en vais avant toi, dis-toi, bien que je serai là, j'épouserai la pluie.
Quelqu'un qui m'impressionne beaucoup, c'est quelqu'un que je respecte, qui m'impressionne beaucoup. Je trouve qu'elle a un visage formidable, un regard clair, c'est quelqu'un de franc, direct. Elle, c'est vraiment une star.
Au-delà de l'impression et de cette admiration pour la,
non,
pour la
star. On était très, très intimidés quand on a chanté ensemble.
Oui.
L'un ouais. par l'autre.
Et vous étiez soulagé ou infiniment heureux qu'elle vous ait dit oui, qu'elle ait dit oui à ce duo ?
Oui, elle m'avait laissé un message sur mon répondeur. À l'époque, c'était des cassettes et j'ai gardé cette cassette. J'étais très impressionné. Ça représentait beaucoup.
C'est qu'est-ce qu'elle incarne
les artistes qui vous poussent, enfin qui vous font pousser, qui vous aident à grandir, qui vous dorlotent d'une certaine façon. C'est un amour quasi éternel.
Qu'est-ce qu'elle incarne pour vous, Françoise Hardy ?
Beaucoup de talent, beaucoup de rigueur. Et puis, c'est devenu avec Jacques Dutronc aussi, et même Thomas, une sensation de familiarité. Je me souviens avoir passé même un Noël avec eux. Ce sont des gens que j'aime, voilà. Je ne peux pas vous dire plus, je les aime et je les admire artistiquement.
Cette émission des Enfants du Rock, c'est un, comme un porte-bonheur, elle est un véritable événement. On vous découvre avec Françoise et beaucoup d'amis. Ce duo avec Françoise Hardy, Si je m'en vais avant toi, figurait sur un mini-album que vous aviez sorti un mois plus tôt et qui s'appelait Tomber pour la France.
Oui.
Alors, Tomber pour la France se vend comme des petits pains, mais monsieur est à Ibiza, en vacances, il ne sait pas trop ce qui se passe à Paris.
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
Et vous ne le découvrez, si j'ai bien compris.
Qu'en arrivant à Paris. Ouais.
Qu'en arrivant à Paris, à l'aéroport, vous dites flûte alors.
C'est-à-dire qu'entre l'espace, enfin, c'est fou l'impact que cette émission a eu entre le moment où elle est passée et le moment où je suis revenu de vacances. C'était une dizaine de jours. Tout a changé.
Tout a changé. La Daumania avait commencé.
Et j'ai commencé à signer des autographes à l'aéroport, j'en revenais pas.
C'est magnifique.
Mais, oui, a déclenché, non pas une émeute, mais un
moment où j'ai senti que quelque chose s'était passé. Ouais. Ouais.
Le magnifique petit gamin qu'on a vu sur la côte oranaise n'avait pas l'ambition de devenir chanteur, Étienne. Le bac en poche, vous vous inscrivez en DUG d'art plastique. Vous voulez devenir graphiste avec le vague projet de dessiner des pochettes de disques. En 1985, vous avez sorti 3 albums. Vous continuez de dire à l'époque que vous n'êtes pas chanteur.
Je suis pas chanteur, je sais pas chanter. Je fais partie de ces gens qui ont un timbre, qui chantent pas trop faux, et dont seulement le timbre est reconnaissable. Je me suis dit, de toute façon, ça plaira ou ça plaira pas, ce sera la gloire ou le caniveau, et les deux sont très sympathiques.
Vous n'êtes pas chanteur, Étienne Dao ?
Bien sûr que si.
Ah, il y a un changement alors ?
Non, mais je crois que c'était un peu de la coquetterie aussi.
Pour conjurer le.
Oui, voilà, ouais, c'est ça, pour me protéger des attaques, ouais. Très probablement. Et puis voilà, j'avais beaucoup plus d'ambition que je ne le dis à l'époque. Je le réalisais pas, mais c'était vraiment chevillé au corps. C'est vraiment une passion, c'est une vocation, hein, la musique. Mais je n'osais pas l'affirmer. C'est vrai.
À Rennes, vous faites plus tard une rencontre décisive, celle d'Elie et Jack No du groupe Stinky Toys. Ouais. Vous avez mis du temps à dire à votre entourage que vous écriviez des chansons.
Mais c'est à eux que je l'ai dit ce soir-là, parce que j'avais organisé un concert des Stinky Toys avec Sylvie Coma, justement, et où on a perdu vraiment beaucoup d'argent, on a bouffé des pâtes pendant des années après. Mais c'était une rencontre, quoi. Vraiment, c'était comme rencontrer une famille d'esprit, quoi. Parce qu'en fait, il y a eu, après ce concert, où tout le monde est rentré en force, donc vraiment, on n'a pas gagné un centime sur les billets. Et on n'avait pas d'argent pour les loger à l'hôtel, donc ils sont venus chez moi. Et on a passé toute la nuit chez moi à écouter de la musique, à boire, et c'est là où, la première fois, j'ai dit, je fais de la musique, et ils m'ont dit, fais-le, c'est bien. Voilà, donc j'ai continué.
Soulagement.
Moi, j'ai appris les coulisses de l'histoire d'une chanson qui s'appelle Boulevard des Capucines. On en écoute quelques extraits. Vous nous en parlez après ?
D'accord.
Enfin, quelques notes.
Je te demande par cette lettre, mon garçon, de m'accorder ton pardon. Tu sais, quelle connerie, ma jeunesse, mon silence.
Cette lettre, c'est un fils qui s'adresse à... Non, un père qui s'adresse à son fils.
Oui.
Qui lui demande d'accorder son pardon.
Oui.
Cette chanson, vous l'avez écrite alors que votre père s'était présenté à l'Olympia en 1986 en demandant à vous voir.
Oui.
Lui que vous n'aviez quasiment pas revu une seule fois, je crois, depuis son départ d'Algérie. Mm-hmm. Et vous n'aviez pas voulu le voir ce soir-là.
Oui, c'est vrai. J'en suis voulu, bien sûr. Mais à l'époque, je m'étais dit que je m'étais construit sans lui et que... Voilà, j'avais plus besoin de lui. En fait, on se construit souvent avec l'absence. On peut très bien se construire avec l'absence. C'était trop tard. Et puis ensuite, j'ai retrouvé une lettre que ma sœur m'a envoyée. Et cette lettre disait à peu près ça. Je l'ai un peu traficotée et j'ai failli la mettre dans le livre. Et puis, j'ai pas osé parce qu'en fait, il a eu une autre vie avec d'autres enfants, une autre femme. Et j'avais pas envie de d'être intrusif avec cette lettre, parce qu'il racontait aussi autre chose. Mais j'avais envie surtout d'écrire une chanson sur le pardon. C'est important de pardonner.
Et c'est ce que vous lui disiez dans cette chanson.
Oui, ouais. Mais c'est une double conversation.
Oui.
Je voulais pas le dire, en fait. Et quand l'album est sorti, qu'il y a eu cette chanson, les journalistes m'ont demandé si j'allais voir un artiste sur scène à l'Olympia. Enfin,
oui.
Tout d'un coup, on partait sur un truc qui n'était pas du tout l'histoire. Et je l'ai dit, en fait. Et, au départ, je m'en suis un peu voulu. Puis en même temps, je me dis que c'est universel, en fait. Voilà, ça ne s'adresse pas qu'à moi. Si ça touche d'autres gens... Mais ça provoque une émotion tellement particulière, je ne peux plus la chanter, en fait, sur scène. Pour l'instant.
Pour l'instant. Mais vous en racontez l'histoire. Vraiment, ce livre est...
Ah oui.
C'est un sublime ouvrage, A Secret Book. Vous dites que c'est bientôt Noël, ça tombe bien.
Ah oui, vraiment.
À tous les fans
d'Étienne
Daho.
Esthétiquement, en plus, il est magnifique.
Ouais.
Et puis, il y a des textes, les photos, les archives.
Et puis, c'est les légendes magnifique. D'Étienne qui sont pleines d'humour.
Ah oui, vraiment.
J'aime bien la façon dont vous posez un regard amusé.
Sylvie a écrit, c'est très génial, parce qu'en fait, Sylvie dit tout. En fait, il n'y a pas de recoin obscur. Elle dit vraiment tout, mais la manière dont elle le dit, comme ce n'est pas sensationnel.
Ni voyeur.
C'est ça.
C'est authentique et élégant.
Ça passe. Quoi. Voilà.
C'est aux éditions de la Martinière, Étienne Daho, A Secret Book. Merci beaucoup, vous restez avec nous.
Je reste avec vous.
Dans un instant, à vos côtés, Charlotte Rimpion.
Oh, quelle chance.
Qui chante. Ici, la Zoé Bruno, j'étais à ça.
J'étais à ça.
C'est bon, Idor, vous y allez ? À la semaine prochaine ?
Oui.
J'hallucine, c'est ta copine Lila qui passe à la télé. J'avais pas qu'elle chantait. Bah, c'est ton frère derrière, là, dans le groupe.
On peut dire que c'est un petit peu grâce à moi. Ha.
Pardon, mais moi je suis short en temps. Donc... Je sais. Écoute, elle arrive, elle. Tiens.
Mais c'est quoi ce délire là?
Mais t'en as pas marre de me foutre la honte? Enfin, on n'est pas au cirque ici!
Bah, et où? Je suis venu pour te rendre service, je te rappelle!
Mais enfin, c'est l'amicale des profs de Tour-en-Brie! On n'est pas en train de faire un concert au Stade de France!
Ouais, et puis ici, on pouvait y aller parce que là, on est quand même déjà très à la bourre, donc.
Oui, je sais. T'es en train de me dire que ton frère t'a demandé de chanter dans son groupe? Mais il sait que tu chantes mal.
C'est un mythe, ça. Je me débrouille très bien. Et Zoé, pardon, hein, mais. Mm-hmm. Tu connais la chanson?
Bah ça va, c'est bon, j'ai les paroles sur mon téléphone. Hein.
Je t'ai envoyé un mail il y a 4 jours. T'aurais pu faire un effort quand même.
Ça va, c'est pas compliqué.
Ouais, hein. Pardon, Cédric. Moi j'ai curling après avec les enfants, donc si on pouvait y
aller. Oui, je sais, Didier. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix, alors on y va.
Ouais.
Allons-y.
Rock'n'roll!
Et puis ramasse-moi ce chewing-gum, toi, ouais. Rock'n'roll.
Oh là là, paroc.
Paroc, mais c'est dégueulasse.
Rock'n'roll!
Et du coup, ils ont dissous le groupe.
Con! Ça s'est très bien passé.
C'est la vida!
Ok, stop, on arrête là, c'est nul.
Ouais, pardon, excuse-moi, non mais sérieux, là vraiment c'est nul quoi.
Oui.
Bon écoutez, vous étiez pas mal quand même, non?
Voilà, bon, écoute, on va lui faire faire les cœurs, voilà, tu vas y arriver ça, tic, wa, c'est simple, va au fond.
Non Cédric, pardon, mais même au fond, on va l'entendre.
Oui, je sais, et eh ben on l'entendra moins, voilà.
Coucou, je suis pas trop en retard.
Ah, c'est Lila, c'est ma copine qui est venue pour m'encourager.
Je vous ai entendu dehors, c'est ma chanson préférée, je la connais par cœur.
C'est pas vrai? Ah, c'est génial, ça, tiens, pardon. Ah, mais tu veux pas la chanter, alors? Parce que Zoé la connaît pas du tout. Et alors, c'est vraiment catastrophique.
Vous êtes sûr?
Ouais, on est sûr.
Ah, oui, on voilà. Fera chacune son tour.
Voilà, non. Tiens, prends son sac. Eh ben, on y va? Oh, voilà. Et en plus, elle a une voix merveilleuse.
Ah, carrément, c'est vachement mieux. Oui.
Bon, allez. 3, 4.
Tchic, tchic, tchic. Et waouh, waouh, waouh.
Ils ont gagné le prix des enseignants de France, avec enregistrement d'un single et passage en direct à C'est à vous à la clé. Et moi, j'étais à ça d'être une vedette.
Ha. Bonsoir Charlotte Rampling.
Bonsoir.
Ravie de vous accueillir à la table de C'est à vous aux côtés d'Étienne Daho, dont je vous offre immédiatement le livre. Ouais. Peut-être que vous n'aviez pas encore...
Il est très très lourd. Hein.
On est ravis de vous accueillir à l'occasion d'un album. Constitué de chansons tantôt chantées, tantôt parlées, tantôt jouées. Un album qui s'appelle De l'amour, mais quelle drôle d'idée. C'est une drôle d'idée, l'amour, Charlotte?
C'est une drôle d'idée d'avoir fait ça. C'était pas mon idée, heureusement.
pas heureusement, j'ai dit heureusement qu'on est venu me chercher pour le faire, parce que j'aime beaucoup cet album.
Oui, et c'était une excellente idée d'être venu vous chercher. On en parle dans un instant, le temps de vous présenter notre chef ce soir, Vincent Favre Félix, chef étoilé du restaurant qui porte son nom à Annecy et qui a pris un temps infini à désarrêter le filet de truite que vous avez sous vos yeux, c'est bien ça ?
Bonsoir, oui, alors bonsoir. Ce soir vous allez retrouver donc au niveau du plat un filet de truite avec une poêlée d'ortie et pour le côté gourmandise, un beurre blanc à l'oseille. L'ortie, vous allez retrouver un côté fibreux et ferreux. D'habitude, on le mange souvent en velouté. Un petit clin d'œil à ma maman, voilà, qui me le faisait comme ça. Une belle dégustation. Merci. Et à demain.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci
à vous, chef.
Patrick, sur l'album de Charlotte.
De l'amour, mais quelle drôle d'idée. Chaque chanson ressemble à un petit film, une petite séquence, une scénette, un jeu de rôle aussi. Par exemple, vous vous amusez avec l'image qu'on a de vous dans la chanson « Non, je ne vois pas qui vous êtes ».
Non, je ne vois pas qui vous êtes. On ne se connaît pas, je regrette. Votre voix, non, je ne suis pas sûr. Mais quelque chose dans votre allure. Je n'ai jamais été à Fès. Cet été-là, j'étais ailleurs. À être état sur les falaises, si loin de vos histoires de cœur.
Voilà, où Fès rime avec les falaises
d'Étretat.
Est-ce qu'on vous a déjà dit, vous qui êtes à l'affiche depuis l'âge de 16 ans, est-ce qu'on vous a déjà dit dans la vraie vie, non, je ne vois pas qui vous êtes ? Ça vous est jamais arrivé ?
Pas de le dire. Face à face.
Mais il y a des gens qui se demandaient qui vous
êtes. Oui. Et en fait, dans la chanson et dans les chansons, il y a beaucoup de choses que je dis que je peux dire que je n'ai pas dit.
Ah oui.
C'est ça c'est très jouissif.
Par
de
exemple.
Pouvoir dire des choses que vous n'auriez pas pu dire dans la vie,
oui,
c'est ça.
Oui, vraiment face à face, évidemment. On a quand même, on se sent un petit peu responsable de l'affect qu'on a quand on dit quelque chose comme ça.
Ah ben on va le tester tout de suite sur un autre exemple, sur une autre chanson, « Je ne suis pas celle que tu crois ».
Je ne suis pas celle que tu crois. N'aie surtout pas confiance en moi. Tu es en danger, méfie-toi. Lorsque je te dis « embrasse-moi ».
Vous avez fait aussi beaucoup, beaucoup de... Vous avez ouvert beaucoup de voies dans votre carrière cinématographique. C'est dingue, quand on jette un coup d'œil, vous étiez sulfureuse, évidemment, dans Portier de nuit, idéale dans Stardust Memories, dangereuse dans On ne meurt que deux fois, austère dans Swimming Pool, plus récemment, glaciale dans Mélancolia de Lars von Trier. Et puis j'adore le personnage très très jeune que vous avez joué pour Luchino Visconti qui vous dirigeait, c'était un de vos premiers films je crois dans les damnés. Vous aviez 20 ans, vous devez jouer Elisabeth, une mère de 30 ans qui va être déportée. Et il vous dit alors, vous avez tous les personnages en vous. Ça vous est resté ça ?
C'est-à-dire que, oui, vous pouvez atteindre tous les personnages, oui, c'est vrai. Je ne sais pas si c'était exactement cette phrase, mais c'était ça. C'était pour dire à quelqu'un qui... J'avais pas vraiment joué, j'avais pas fait l'école, je ne savais même pas si j'allais faire ça. Mais bon, je me trouvais là, et devant ce Visconti que je ne connaissais pas, je peux le dire, parce que, voilà, j'étais inculte dans le cinéma à cette époque-là. Si quelqu'un dit que vous avez le potentiel de tout jouer dans votre vie, tous les personnages, à cet âge-là, c'est quand même c'est étonnant. Voilà. Donc c'était un bon démarrage.
Que ce soit un Visconti qui vous dise ça.
Oui.
On va regarder une archive. Vous êtes interviewé par Christophe de Chavannes à l'occasion de la sortie d'un autre film qui avait fait sensation, Max mon amour, en 86.
C'est vrai que lorsque vous avez fini de tourner une prise, vous avez tellement une double personnalité, entre guillemets, que vous vous souvenez plus de ce que vous venez de dire quand c'est fini ?
Oui, souvent. Pratiquement
bizarre,
toujours.
Bizarre, ça.
Si on me dit qu'est-ce que vous avez fait dans cette prise, je serais incapable de le dire.
C'est bizarre parce qu'on s'imagine
plutôt qu'un... Il y a une sorte d'état de... Je sais pas, peut-être de grâce, je vais dire, mais c'est pas exactement
si,
ça.
Si, sûrement.
Il y a différentes façons de tous les comédiens de faire ça, et moi je me lance dedans avec un sorte d'état un peu kamikaze, comme si je me lançais dans une vraie situation.
Alors on va parler...
En ayant pensé avant, mais je le fais comme pour de vrai.
Ce qui veut dire que dans ce film, vous étiez vraiment amoureuse d'un chimpanzé.
Mais oui.
Bah tiens.
Mais oui. Ça marche pas sinon.
Bah bien sûr.
Attendez, Pierre. Oui.
Ça marchait.
Il faut y croire jusqu'à que bah c'est la vérité.
Chanter, vous l'avez fait très jeune, Charlotte Rampling, à Londres, je crois, dans des smoking concerts.
Un smoking concert, c'était quelque chose qui c'était pas un nom générique, mais on appelait ça dans la banlieue de Londres où j'étais. On faisait chaque autour de Noël, chacun faisait des sketchs ou des chansons ou des ils inventaient quelque chose et on les jouait. Voilà, on se faisait chacun son tour. Et comme on revenait de la France où j'étais pendant 3 ans à Fontainebleau, c'est pour ça qu'on parlait français avec ma sœur, on s'est mis en imperméable et barésie et des petits bérets comme ça, et puis on a chanté. C'est si bon, et des petites choses comme ça, ou les chansons de traînée.
Et tout le monde était très impressionné que vous puissiez chanter des chansons françaises.
Oui, et puis on avait un exotica aussi, qui était quand même quelque chose, parce que la France a ça, hein, vous le savez bien. Mm. Vous avez quelque chose quand j'avais 9 à 13 ans, et pour moi, c'était exotique, ce pays, tellement il y avait un raffinement, il y avait une cuisine incroyable, il y avait un paysage extraordinaire, il y avait quelque chose Donc, on a emmené ça en Angleterre, dans le banlieue londonienne, qui était tout sauf ça, et donc on a éclairé un petit peu les scènes de Stanmore.
Vous avez déjà enregistré un album Charlotte Rampling, c'était il y a 20 ans avec Jean-Pierre Stora.
Oui.
Ça s'appelait Comme une femme.
Distante et mystérieuse à l'écran, Charlotte Rampling se dévoile aujourd'hui en chanson. Une nouvelle aventure vécue comme un prolongement de son métier d'actrice.
Tout ce qui est autour de la voix, c'est quelque chose qui est très familier. Et là où je me sens très confortable, c'est dans l'utilisation de ma voix.
Une voix sensuelle, un cocktail de romantisme, de nostalgie et de séduction.
Vous aviez pris des cours de chant à l'époque, mais là vous êtes plus à l'aise dans les chansons parlées que vous faites dans cet album-là. C'est plus ce que vous aimez faire.
Oui, c'est plus moi parce que j'ai pas fait d'autre chose après musique chantée. On m'a demandé une chose parce que je ne suis pas chanteuse. Je sais que je ne suis pas chanteuse. Et c'est pas pour fausse humilité, non. Mm. C'est pas mon métier. Je travaille pas comme un vrai chanteur travaillerait vraiment pour réussir. Je suis de cinéma, donc c'est pour ça que ça représente plus. C'est pour ça que j'aime cet album, parce que c'est cinématographique pour moi. Et la voix ne va jamais monter. Elle peut faire doudou, parce que je sais chanter un peu. Mais ça, c'est moi, oui.
Ça, c'est vous. Et la voix de Charlotte, comment est-ce qu'on peut la décrire, Étienne ? Sensuelle, disait la journaliste.
Très profonde. Elle provoque des émotions fortes.
Il y a du mystère aussi chez Charlotte Rampling et qui se transmet dans cette voix-là.
Ça donne très envie de découvrir l'album, en tout cas.
Eh bien, voilà, je vous l'offre immédiatement. C'était très élégamment demandé.
C'est un message, merci.
Mais vous rendez l'intégral.
Mais c'est vraiment beaucoup plus léger pour lui. Hein, vraiment, regarde. Attends, on va le comparer.
Aussi, léger, mais dense.
Mais
voilà. De l'amour, mais quelle drôle d'idée. C'est sorti le 18 novembre dernier. Oui. Quel plaisir de vous voir tous les deux présider la table de C'est à vous. On est très heureux de vous avoir réunis ce soir à nos côtés. Merci beaucoup de votre présence à tous les deux. On conclut cette émission comme tous les soirs avec les actualités de Bertrand, qui était là sans rien dire, extrêmement discret et humble. Voilà, sur ses petites pattes de velours, les actualités de Bertrand.
Bonsoir à la une de ce 24 novembre. Hier, en début de chronique, je vous annonçais que demain, nous serions à un mois pile du réveillon de Noël. Eh bien, demain, c'est aujourd'hui. Les faits. Nous sommes donc à un mois pile du réveillon de Noël. Je déclare donc ouverte la période des téléfilms cucu et des sujets de recettes très light dans les 13 heures. Si vous avez une citrate de bétaïne sous la main, c'est le moment de la gober.
Tout commence avec du beurre.
Je vais ajouter du beurre, 50 grammes à peu près.
500 grammes de beurre demi-sel, le beurre coupé en carrés.
Toujours, toujours, toujours tourné.
Un brochet d'un kilo et demi.
Un caramel au beurre salé.
Une bonne dose.
Ce cuisse de poulet et 500 grammes de porc, 600 grammes de foie gras, une barre de porc, une charcuterie tout en finesse.
Une petite rasade.
Des fêtes légères, donc, et c'est ça qui est bon, me disait Patrick pendant le magnéto. Absolument. Magie de Noël toujours, des nouvelles de la reine consort. Son titre tient toutes ses promesses, puisqu'aujourd'hui, ils l'ont sorti dans une école pour répandre un peu de féerie. Face à des enfants visiblement plus portés sur les Crayolas que sur Camilla, Devant tant d'enthousiasme, elle a vérifié si les enfants étaient bien vivants. Oui, ça bouge. Avant de leur offrir des peluches Paddington. Alors les enfants, heureux de cette peluche? Résultat des courses, elle a fini seule avec sa peluche à se boulotter un sandwich triangle. La vie est cruelle, même quand on est à ce niveau. Enfin, parlons tauromachie, il était votre invité en début d'émission et vous avez bien prononcé son nom, ce qui n'était pas le cas de Julia Vignali qui le recevait ce matin. Avertissement, la séquence qui va suivre est interdite aux plus de 10 ans, vu le niveau.
Bonjour Raphaël Roucoul ou El Rafi, je vous appelle comment? Merci beaucoup El Rafi, Raphaël.
Oui, je sais que son vrai nom, c'est Recoul. On avait essayé de la faire avec un son de radar de Recoul, mais ça marchait moins bien. Si, comme moi, vous aimez l'humour, je vous rappelle que toutes les dates de ma tournée ne s'affichent pas en bas de l'écran, faute de demande, finalement. Vous l'évoquiez également tout à l'heure en début d'émission, Aymeric Caron a finalement retiré sa proposition de loi sur l'abolition de la corrida, et c'est dommage, car c'est un débat qui offrait l'occasion d'entendre des phrases qu'on n'aurait jamais imaginé être prononcées dans une matinale.
C'est pas une tradition française.
Et alors, c'est pas bien les traditions qui viendraient d'autres pays?
C'est pas moi qui vais critiquer les traditions qui viennent d'autres pays.
Non, mais je veux dire, le couscous, c'est pas une tradition française au départ, historique, et ça le devient, et c'est tant mieux, non?
Le couscous ne tue personne.
Le couscous ne tue personne, Aymeric Caron, 24 novembre 2022. Dans le reste de l'actualité, nourriture toujours en exclusivité française, dans les restaurants de Ronald. Et pour le plus grand bonheur des amateurs de fast-food, le Mac Baguette est de retour, oui. Mais il n'est pas le seul. Pub. Il pensait s'en être débarrassé. Il pensait que tout le monde était passé à autre chose, sauf que...
Trois juges d'instruction enquêtent sur des soupçons de financement illégal de la campagne d'Emmanuel Macron de 2017, avec en toile de fond les relations entre le chef de l'État et un cabinet de conseil McKinsey.
En ce moment, le McKinsey est de retour à l'Élysée. Et pour oublier tout ça et décompresser après cette nouvelle polémique, Emmanuel Macron s'est vengé sans aucune raison sur son pupitre.
Dans les travaux de conception collective et de réforme institutionnelle. Voà, je ne veux pas être plus long, je vais maintenant passer du temps avec vous et à vos côtés, ma confiance, ma reconnaissance, parce que tant que je serai ici, avec le gouvernement de la France que vous avez, nous serons à vos côtés. Vive la République et vive la France.
Il n'y a rien demandé à personne, ce pauvre petit pupitre. Le président... Un poil. Le président qui poursuit sa carrière dans le stand-up, hier soir, il était en représentation devant un public chaud comme la braise, celui des maires de France. On veut le sketch du zéro artificialisation net.
J'arrive après. Bien, il ne faut pas qu'on ait une approche uniforme de l'artificialisation net. C'est du zéro artificialisation net. Dit ZAN, pour ceux qui auraient oublié ce que ça signifie, dans le hit parade. Bon.
Je l'avais déjà vu en rodage, mais elle est toujours aussi bonne. Et il a conclu, comme tous les stand-uppers, par l'enchaînement classique, punchline et gorgée d'eau.
Mais pardonnez-moi cette familiarité au moment de conclure mon discours. Jamais les emmerdes, j'en suis assez peu. C'est trop facile.
C'est tout pour moi, c'était Emmanuel Macron. On se revoit très vite, le 12 à Tourcoing, le 14 à Limoges et le 16 à Bénodet. On ouvre notre page Coupe du Monde qui se poursuit. Marcus Thuram était en conf de presse pour l'équipe de France et il a eu le droit à la question qu'on pose à tous les fils d'eux.
C'est vrai que votre père Lilian, c'est une référence pour nous tous, fans de football, tous les Français. C'est pas évident de construire son histoire avec un père aussi illustre. Sincèrement, vous en avez marre qu'on vous renvoie à votre père?
Vous voulez la vérité?
Franchement, ouais.
Pas du tout.
Tu déconnes. D'autant que les autres questions de la conf de presse tournaient essentiellement autour de son positionnement sur le terrain et de son statut dans l'équipe.
Votre capitaine et gardien, Hugo Lloris, pourrait battre le record de sélection qui est détenu par votre papa.
Vous savez récupérer un conseiller spécial de votre père.
Votre père, Lilian Thuram, champion du monde. Qu'est-ce que ça fait pour vous d'être le fiston?
Il disait que tu parlais beaucoup avec ton père. Est-ce qu'il t'a mis un petit challenge pour la Coupe du Monde?
C'était donc un nom poli. Et c'est quand on voit que le fils d'un joueur qu'on a applaudi en 98 tient aujourd'hui des conférences de presse qu'on se rend compte que la vie a quand même fait son petit bonhomme de chemin et qu'on s'est tous pris un bon petit coup de pelle derrière la tête. Foot toujours... Comment?
Tu l'as applaudi?
En 98, oui, j'étais né, Mohamed. Merci. Je suis pas. Oui, oui. On en vient à notre fil rouge du mondial, le spécialiste des visios, le seul, l'unique, Jacques Vendroux, qui chaque jour fait des Skype pendant la Coupe du Monde sur CNews. Tonton moustache, comme j'aime à l'appeler, qui teste vraiment tout à Doha et qui passe de très belles vacances. Je vais
Ah, il fume le narguilé.
Vendroux dit tout, le chevalier blanc de Luis Mariano. Vendroux dit tout, comment ça va? Vous êtes où là?
Je suis dans un bar à Chicha.
Ben oui, c'est normal. Ben oui, mais alors, c'est pas... mais alors ça s'est passé comment?
J'ai essayé hier soir, ça s'est pas très bien passé, je dois vous le dire. J'ai eu la tête qui a tourné assez rapidement, donc j'ai mis un break, j'ai pas prolongé l'expérience, mais là j'ai voulu, je veux dire, eh bien, choisir un endroit qui sort de l'ordinaire.
Et depuis le début de ce mondial, si on résume, Jacques Vendroux parle très peu de foot lors de ses visios sur CNews. C'est plus TripAdvisor qu'autre chose. Après avoir décrit son hôtel, s'être plaint de la clim, s'être extasié devant les autoroutes à 6 voies et avoir déploré, comme on l'a diffusé l'autre jour, le fait qu'il y a trop de mosquées au Qatar, aujourd'hui, il était donc en duplex d'un bar à chicha. Au rythme où ça va, je me demande à quoi ressembleront les Skype de Jacques Vendroux à la fin du mondial. Vendroux dit tout, réglez votre caméra, Jacques. Comment se passe ce mondial?
Mais ça va, bon, parce que vous, vous allez vous marrer, regardez ce que je vais vous rapporter là quand je rentre à Paris. Un plat à tagine, j'ai eu un prix ce matin.
D'accord, mais concernant le foot, vous êtes là-bas pour ça, petit pronostic peut-être?
Écoutez, il fait 46 degrés là, j'ai les bonbons qui collent au papier, mais tout va bien, excepté le petit déjeuner, parce qu'on m'a vendu un all-inclusive, il n'y a pas de bacon hein, le matin.
D'accord.
Je ne sais pas, mais il n'y a pas de jambon.
D'accord, mais pour la finale, sinon parlez foot, des infos.
Ah bah vous allez vous marrer, cet après-midi je vais me faire masser les couilles parce qu'on m'a dit qu'il y a un mot secret, apparemment on a,
non,
on a un
non,
petit
non.
Bonus.
Vous oh là là, Vendroux dit trop.
La baisse, comme on dit chez eux.
Oui c'est ça, c'est ça. L'info continue demain, bonne soirée à tous.
Bravo Bertrand. Merci beaucoup, chère Charlotte. Merci, Étienne.
Merci.
Un plaisir de vous accueillir ce soir à la table de C'est à vous. Sur France 5, tout de suite, la soirée science, grand format de Mathieu Vidard. Le tombeau de Toutankhamon, un mystère révélé. Et si vous voulez bien vous tourner vers Philippe pour souhaiter une excellente soirée à nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Merci à nos invités. À demain, 19h en direct. Ciao.
Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.